Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. 900 millions d'électeurs pour un scrutin qui va durer 5 semaines. En Inde, les législatives débutent ce matin et face au Premier ministre sortant, trois femmes se font entendre. Nous irons à New Delhi. Direction également Bruxelles où les 27 ont donné un nouveau délai au Royaume-Uni pour enclencher ou non le Brexit. Le pays a jusqu'au 31 octobre. Explication à suivre. Dans ce journal aussi, vous entendrez le témoignage de personnes mal logées et d'associations en France. Elles se sont entretenues hier avec la rapporteure de l'ONU sur le mal logement. Et puis, qui est la femme qui pourrait devenir ambassadrice de la France au Vatican ? Son portrait dans moins de 10 minutes. Les élections législatives indiennes débutent donc ce matin et elles vont durer 5 semaines. 900 millions d'Indiens sont appelés à renouveler la chambre basse du Parlement. C'est la plus grande élection du monde. Le favori est le parti nationaliste hindou du BJP, mené par le Premier ministre Narendra Modi. Face à lui, trois figures fortes, trois femmes qui n'hésitent pas à affronter le Premier ministre directement, Sébastien Farcy.
La première porte un patronyme bien connu. Priyanka Gandhi est la sœur du président du Congrès et petite-fille de l'ex-première ministre Indira Gandhi. Elle ne se présente pas, mais mène une campagne de terrain et elle est humaine et rassembleuse, là où Narendra Modi apparaît comme agressif et dogmatique.
Je vous demande de tout cœur de réfléchir avant de voter. Comment voulez-vous voir votre vie changer ? Comment aider les femmes à se sentir protégées ?
Il y a ensuite Mayawati, la reine des Dalits, les anciens intouchables. Ancienne ministre en chef du plus grand état indien de l'Uttar Pradesh, elle capte le vote de ces basses castes martyrisées par les hindouistes du BJP. Elle a fait alliance avec les socialistes, ce qui double ses chances de réussite. Enfin, la plus féroce que Narendra Modi doit affronter est Mamata Banerjee, qui n'hésite pas à l'attaquer sur son terrain favori, la promotion de l'hindouisme.
Le BJP se donne le droit de dire qui est hindou ou pas. Ils avancent le sabre à la main et frappent ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. Ce sont des talibans hindous. Ceci n'est pas notre hindouisme et nous n'avons pas besoin de son certificat.
Mamata Banerjee, aujourd'hui chef du gouvernement du Bengale, s'est dite prête à prendre la tête d'un gouvernement national de coalition anti-Modi.
Sébastien Farcy, correspondant de RFI à New Delhi pour France Culture. En Algérie, la présidentielle se déroulera le 4 juillet prochain. Voilà ce qu'on a appris hier. Dans le même temps, l'armée a mis en garde les manifestants contre la poursuite de leur mouvement de contestation. Il est aussi question de date au Royaume-Uni. En voici une nouvelle. Le 31 octobre, Theresa May a réussi à convaincre les Européens que ses discussions avec les travaillistes lui ouvriront une majorité aux communes. Après une négociation nocturne, les 27 se sont donc mis d'accord pour proposer un report long du Brexit, le 31 octobre donc. Le Premier ministre irlandais appelle cela une extension flexible, car le Royaume-Uni pourra quitter l'Union européenne dès qu'un accord sera signé, Pierre Benazet.
Ne gâchez pas ce nouveau délai, demande aux Britanniques le président du Parlement européen, Donald Tusk. Ce report au 31 octobre n'est en effet destiné qu'à permettre à Theresa May de parvenir à faire ratifier l'accord de sortie par la Chambre des communes. Il aura fallu 5 heures aux Européens pour se mettre d'accord sur ce qu'Emmanuel Macron qualifie de compromis. Un compromis entre d'abord la position de la France, de l'Autriche et d'autres, qui voulaient un délai court pour maintenir la pression sur le Royaume-Uni, et ensuite la position de ceux qui ne croient pas dans la possibilité d'une ratification rapide aux communes. Le 31 octobre a été choisi car c'est le lendemain qu'entrera en fonction la nouvelle Commission européenne, et les 27 cherchaient une date qui évite que le Royaume-Uni puisse entraver le bon fonctionnement de l'UE, même si tous ses droits et obligations d'États membres de l'Union lui restent acquis. Les 27 ajoutent qu'en aucun cas, l'accord de sortie ne pourra être renégocié. Autre condition posée, la tenue d'élections européennes en mai au Royaume-Uni, faute de quoi le Brexit se produira le 1er juin.
Le président vénézuélien Nicolas Maduro a annoncé avoir conclu un accord avec le Comité international de la Croix-Rouge, accord pour une distribution d'aide humanitaire au Venezuela. L'implication du gouvernement inquiète déjà les partisans de l'opposant Juan Guaido. La rapporteure spéciale de l'ONU sur le droit au logement convenable était hier à Paris. Liana Farah est en visite en France depuis une semaine maintenant pour examiner la politique française en matière de logement. À Paris donc, hier, elle a rencontré plusieurs dizaines de familles mal logées qui occupent le gymnase Roquépine près de l'Élysée. Laura Dulieu les a rencontrées après la visite de la rapporteure.
Leilani Farah et sa délégation étaient très attendues par les habitants et les familles mal logées. Quelques-unes ont été choisies pour discuter avec elle. Parmi elles, Kamba, elle a fui le Mali en 2016 en laissant trois de ses enfants derrière elle. Elle vit maintenant à l'hôtel avec sa fille non-voyante Kadiatou. Elle a 11 ans.
On veut un logement stable parce que l'école, ils commencent à dire des choses là en disant « Votre enfant, elle est en danger, du coup on va la séparer de vous. » Et moi, depuis que je suis née, je suis avec ma mère et je sais pas pourquoi ils veulent me séparer de ma mère. Juste parce qu'on n'a pas de logement stable, eux qui doivent nous aider à avoir un logement stable.
Sa situation est loin d'être isolée. Environ 40 familles normalement prioritaires dorment dans ce gymnase, occupé depuis plus de 2 mois. Jean-Baptiste Hérault est porte-parole de l'association Droit au Logement. Pour lui, la visite de la rapporteure de l'ONU peut faire bouger les choses.
Ce qu'on espère, c'est qu'elle interrogera le gouvernement et le ministre du Logement, qui s'est vaguement engagé déjà plusieurs reprises, mais des engagements qui ne débouchent pas. Certaines de ces familles attendent depuis des années. 40 d'entre elles sur 150 sont sans abri. On a des familles dont les enfants ne sont plus scolarisés parce qu'ils n'ont pas de logement, ils sont trimballés. On a une situation dramatique. Et je pense que Mme Farah va comprendre assez vite la situation.
La rapporteure doit faire une première déclaration officielle vendredi matin, mais elle a déjà prévenu les familles en expliquant que son rôle est de montrer une situation pour faire pression sur le gouvernement français, mais qu'elle ne pourrait pas directement améliorer leur situation.
Comment améliorer l'apprentissage des langues à l'école? Le Conseil d'évaluation du système scolaire, le CNESCO, publie ce matin une étude inédite et on y apprend que les collégiens comprennent mieux l'anglais qu'en 2010, notamment à l'écrit, pas encore à l'oral. Le ministre Jean-Michel Blanquer présentera un plan national dans une semaine. Après l'Assemblée nationale, le Sénat. Le Premier ministre Édouard Philippe continue son exercice d'explication, de justification après le grand débat national. Sorte de grande conclusion avant les mesures qui doivent être annoncées par le président de la République, mais comme la veille à l'Assemblée nationale, il s'est hier heurté au scepticisme des sénateurs, Maxime Fayol.
Édouard Philippe a beau se féliciter de la tenue du grand débat, des milliers de réunions publiques et des centaines de milliers de contributions, à l'arrivée, il ne peut que tirer des constats sans annoncer grand-chose.
Le président de la République présentera, le moment venu, ses orientations. Il l'a annoncé, les décisions qu'il rendra publiques seront puissantes et concrètes. Il fixera le cap et les éléments de méthode qui nous permettront d'avancer.
Le Premier ministre s'est heurté à des sénateurs certes moins virulents dans leurs propos que les députés la veille, mais tout aussi remontés par l'exercice jugé par beaucoup interminable de ce grand débat. Bruno Retailleau est le chef de file des sénateurs Les Républicains.
Monsieur le Premier ministre, l'exercice d'aujourd'hui est un peu vain. Dans quelques jours, vraisemblablement, que le président de la République prendra la parole. Parlera-t-il bien? Sans doute, nous lui reconnaissons le talent oratoire. Parlera-t-il longtemps? Peut-être, nous lui reconnaissons une forme de résistance. Mais parlera-t-il vrai? Je pense que les Français en ont marre des subtilités, des habiletés, des ruses, du « en même temps », d'une pensée complexe. Ce que veulent les Français, c'est non pas la complexité d'une pensée, c'est la simplicité, tout simplement, des convictions.
Le sénateur socialiste Patrick Kanner a abondé dans le sens de Bruno Retailleau. Si le président de la République a gagné un peu de temps avec ce grand débat, espérons qu'il ne nous ait pas fait perdre le nôtre. Signe que droite et gauche se sont une nouvelle fois retrouvés hier sur la même longueur d'onde.
Droite et gauche se retrouvent aussi à l'Assemblée nationale sur le dossier de la privatisation d'Aéroports de Paris. La loi Pacte qui la prévoit doit être définitivement validée ce matin dans l'hémicycle. On attend dans les jours qui viennent la nomination d'un nouvel ambassadeur de la France au Vatican, d'une ambassadrice en l'occurrence peut-être, car Paris a proposé le nom d'une diplomate. Elle pourrait être la toute première française à occuper ce poste, Isabelle Labéry.
Son CV colle parfaitement au profil du poste, en général réservé aux diplomates catholiques en fin de carrière. Elisabeth Beton-Delegue, mariée, 64 ans, a derrière elle un parcours sans faute au ministère des Affaires étrangères, successivement ambassadrice au Chili, au Mexique ou encore en Haïti. Un excellent choix, résume un diplomate. Si le Vatican valide, la future locataire de la Villa Bonaparte sera donc la toute première femme à représenter la France auprès du Saint-Siège depuis que le poste existe, autrement dit depuis la fin du Moyen-Âge. Une première intéressante, souligne une autre source au Quai d'Orsay, même si une vingtaine de pays sur les 127 actuellement représentés au Vatican ont déjà choisi une femme. C'est le cas des États-Unis, de l'Espagne ou de l'Ukraine depuis plus de 10 ans. Elisabeth Beton-Delegue en tout cas comblera un vide. Le poste est vacant depuis le départ en retraite du dernier occupant en juillet dernier. Elle a enfin l'avantage de respecter la règle non écrite qui exige que les postulants ne soient ni divorcés, ni paxés, ni homosexuels. Une règle qui avait bloqué en 2015 la nomination de Laurent Stefanini. Mais cette fois-ci, pas de risque de blocage. Paris a même attendu la fin du procès du cardinal Barbarin pour faire sa proposition et montrer sa volonté d'apaisement avec le Vatican.
Le temps s'annonce contrasté ce jeudi avec du soleil au nord de la Loire, encore quelques pluies et des nuages au sud. Il fait ce matin 8 degrés à Strasbourg et Lille, 9 à Paris, 12 degrés à Bordeaux et Lyon, 16 à Nice.